Chapitre 38. Blaine n'aimait pas Boubacar, ce qui compta peut-être ou peut-être pas dans l'histoire de leur dispute. Mais Blaine n'aimait pas Boubacar. Et la journée d'Ifemelu débuta par une visite de la classe de Boubacar. Blaine et elle avaient fait sa connaissance à un dîner donné en son honneur par l'université. C'était un Sénégalais à la peau noire qui venait d'arriver aux États-Unis pour enseigner à Yale. Il était sûr de son intelligence et sûr de son importance. Présidant la table, il buvait du vin rouge en parlant ironiquement des chefs d'État français qu'il avait rencontrés, des universités françaises qui lui avaient proposé un poste. « Je suis venu en Amérique parce que je voulais choisir mon propre maître, » dit-il. « Si je dois avoir un maître, mieux vaut l'Amérique que la France. Mais je ne mangerai jamais un cookie ni ne mettrai le pied dans un McDonald's. » Quelle barbarie! Ifemelu fut charmée et amusée. Elle aimait son accent, son anglais imprégné de Wolof et de français. « Je l'ai trouvé génial !» dit-elle à Blaine peu après. « C'est intéressant de l'entendre débiter des banalités en pensant qu'elles sont d'une grande profondeur, » dit Blaine. « Il a un certain égo, mais c'était le cas de tout le monde à cette table, » dit Ifemelu. « Vous, les gens de Yale, n'êtes-vous pas censé en avoir avant d'être recruté ?» Blaine ne rit pas comme il l'aurait fait habituellement. Elle perçut dans sa réaction une aversion foncière qui n'était pas dans sa nature. Elle s'en étonna. Il affectait un mauvais accent français en imitant Boubacar. « Les Africains francophones font une pause café, les Africains anglophones une pause thé. Il est impossible d'avoir un vrai café au lait dans ce pays. » Peut-être lui en voulait-il de s'être approché si naturellement de Boubacar ce jour-là, au moment du dessert, comme de quelqu'un parlant le même langage silencieux qu'elle. Elle avait taquiné Boubacar au sujet des Africains francophones qui s'étaient laissés bourrer le crâne par les Français, était devenue susceptible, à la fois trop sensible aux affronts des Européens et fascinée par tout ce qui était européen. Boubacar avait ri, un rire familier. Il n'aurait pas ri ainsi avec un Américain. Il se serait montré cinglant si un Américain avait osé dire la même chose. Peut-être Blaine avait-il été contrarié par cette proximité, quelque chose d'essentiellement africain dont il se sentait exclu. Mais les sentiments d'Ifemelu pour Boubacar étaient fraternels, innocents. Ils se voyaient souvent, prenaient le thé à la librairie Atticus et parlaient, ou plutôt, elle écoutait car il monopolisait pratiquement la conversation, de la politique de l'Afrique occidentale, de la famille, du pays, et elle le quittait toujours avec un sentiment de réconfort. Lorsque Boubacar lui parla de la nouvelle bourse de lettres créée à Princeton, elle avait commencé à se pencher sur son passé. Une certaine impatience s'était emparée d'elle. Elle commençait à avoir des doutes sur son blog. « Tu devrais poser ta candidature, » dit-il. « Ce serait parfait pour toi. »« Je ne suis pas universitaire. Je n'ai même pas une licence. Le boursier actuel est un musicien de jazz très brillant, mais il n'a qu'un diplôme de fin d'études secondaires. Il cherche des gens qui explorent de nouvelles voies, qui veulent aller plus loin. » Il faut que tu postules, et n'hésite pas à donner mon nom comme référence. Nous devons pénétrer ces places, vois-tu? C'est la seule manière de changer le discours ambiant. Elle fut touchée, assise en face de lui dans un café, partageant avec lui une affinité d'idées. Boubacar l'avait souvent invité à assister à son cours, à un séminaire sur les problèmes de l'Afrique actuelle. Tu pourras y trouver de quoi nourrir ton blog, avait-il dit. C'est ce jour-là qui marqua le début de sa brouille avec Blaine, le jour où elle assista au cours de Boubacar. Elle s'assit au fond de la classe, près de la fenêtre. Dehors, les feuilles tombaient des grands arbres majestueux. Les passants, emmitouflés jusqu'au cou, se hâtaient sur les trottoirs, leurs gobelets à la main. Les femmes, surtout les Asiatiques, joliment habillées en jupes étroites et bottes à hauts talons. Les étudiants de Boubacar avaient tous des ordinateurs portables ouverts devant eux. Sur les écrans s'affichaient des pages d'e-mail, des recherches sur Google, des photos de célébrités. De temps à autre, ils ouvraient un document Word et tapaient quelques mots du cours de Boubacar. Leur veste était accrochée au dossier de leur siège, et tout dans leur maintien, affalé, un peu agacé, disait Nous connaissons déjà les réponses. Après le cours, ils iraient à la cafétéria de la bibliothèque, acheter un sandwich d'Afrique du Nord ou un curry indien, et quand ils se dirigeaient vers une autre classe, un groupe d'étudiants leur distribuerait des préservatifs et des sucettes. Dans la soirée, ils iraient prendre le thé chez un professeur ou un président d'Amérique latine ou un prix Nobel répondrait à leurs questions comme si elles étaient importantes. « Tes étudiants étaient tous sur Internet ?» dit-elle à Boubacar tandis qu'il regagnait son bureau. « Ceux-là n'ont aucun doute sur la légitimité de leur présence ici. Ils pensent qu'ils peuvent être là. Ils en ont gagné le droit et ils paient pour cela. Au fond, ils nous ont tous achetés. C'est la clé de la grandeur de l'Amérique, cet orgueil démesuré. » dit Boubacar, un béret de feutre noir sur la tête, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. « Voilà pourquoi ils ne comprennent pas qu'ils devraient être reconnaissants que je sois ici. Devant eux. » Il venait d'arriver dans son bureau quand on frappa à la porte entrebâillée. « Entrez !» dit Boubacar. Kavanagh entra. Ifemelu l'avait déjà rencontré. Il était assistant d'histoire et avait grandi au Congo. Les cheveux crépus, dotés d'un sale caractère, il paraissait plus adapté à la couverture de guerres dangereuses dans des pays lointains qu'à l'enseignement de l'histoire à des étudiants. Il se tenait à la porte et dit à Boubacar qu'il prenait un congé sabbatique et que son département avait commandé des sandwichs pour le lendemain, un déjeuner de départ donné en son honneur, et qu'on lui avait dit qu'il s'agissait de sandwichs inhabituels, garnis de choses spéciales, comme des pousses d'alfalfa. « Si je m'ennuie, je ferai un saut, » dit Boubacar. « Vous devriez venir, » dit Kavanagh à Ifemelu. « Vraiment. »« Je viendrai, » dit-elle. « Je ne refuse jamais un repas gratuit. » En quittant le bureau de Boubacar, elle reçut un texto de Blaine. « Connais-tu la nouvelle à propos de M. White à la bibliothèque ?» Elle crut d'abord que M. White était mort. Elle n'en fut pas affligée outre mesure et s'en voulut. M. White, agent de sécurité de la bibliothèque, toujours posté à la sortie pour vérifier le rabat de chaque livre, avait l'œil chassieux et une peau sombre, couleur de myrtille. Ifemelu était tellement habituée à le voir assis, un visage et un buste, que la première fois qu'elle le vit marcher, sa démarche lui fit pitié. Il avait les épaules courbées comme sous le poids d'un deuil permanent. Blaine s'était lié d'amitié avec lui des années auparavant, et il sortait parfois pendant une pause pour aller bavarder avec lui. « Cet homme est un livre d'histoire, » disait-il. Elle l'avait rencontré à quelques occasions. « Est-ce qu'elle a une sœur ?» demandait M. White à Blaine en la désignant. « Ou bien, « Vous avez l'air fatigué, mon garçon. Quelqu'un vous empêche-t-il de dormir ?» D'un ton qu'Ifemelu jugeait déplacé. Quand ils se serraient la main, M. White pressait ses doigts d'un geste suggestif et elle les retirait en évitant son regard. Il y avait dans cette poignée de main une insistance, une concupiscence, qui avait fait naître chez elle une légère aversion à son égard. Mais elle n'en avait jamais parlé à Blaine, parce qu'elle s'en voulait d'éprouver ce dégoût. M. White n'était après tout qu'un vieil homme noir malmené par la vie, et elle aurait voulu pouvoir fermer les yeux sur ses privautés. « C'est curieux que je ne t'aie jamais entendu parler Ebonix auparavant, » dit-elle à Blaine, la première fois qu'elle l'entendit bavarder avec M. White. Sa syntaxe était différente, ses cadences plus rythmées. « Je pense que je me suis trop habituée à ma voix. Les Blancs nous surveillent, » dit-il. « Et tu sais, les jeunes Noirs ne changent plus de code linguistique aujourd'hui. Les enfants de la classe moyenne ne savent pas parler Ebonix, et les gosses du centre-ville ne parlent qu'Ebonix. » mais ils n'ont pas cette fluidité qu'ont ceux de ma génération.
Je vais en faire un post dans mon blog.
J'en étais sûre.
Elle répondit au texto de Blaine. Non, qu'est-il arrivé? Comment va Monsieur White? Tu as fini? Tu veux manger un sandwich? Blaine l'appela et lui demanda de l'attendre au coin de Whitney. Elle l'aperçut bientôt marchant rapidement dans sa direction, silhouette mince vêtue d'un pull gris.
Salut!
Dit-il en l'embrassant.
« Tu sens bon !»
dit-elle, et il l'embrassa à nouveau.
« Tu as survécu au cours de Boubacar, même s'il n'y avait pas de vrai croissant ni de pain au chocolat ?»«
Arrête ! Qu'est-il arrivé à M. White ? » Tandis qu'il se dirigeait en se tenant par la main vers la boutique de Bagels, il lui raconta qu'un ami de M. White, un noir, était passé la veille au soir et que tous deux se tenaient dehors devant la bibliothèque. M. White avait donné à son ami les clés de sa voiture parce que celui-ci voulait la lui emprunter. Et l'ami avait remis à M. White de l'argent que M. White lui avait prêté un peu plus tôt. Un employé blanc de la bibliothèque les avait vus et, présumant qu'ils dealaient de la drogue, avait appelé un supérieur. Celui-ci avait alors appelé la police. La police était venue chercher M. White pour l'interroger.
« Oh, mon Dieu !» dit Femelou. « Il va bien ?»«
Oui, il est de retour à son bureau. » Blaine s'interrompit. « Je suppose qu'il n'est pas surpris par ce genre de choses. » »«
Voilà la terrible tragédie !»
dit Femelou, consciente d'employer les mots de Blaine. Parfois, elle entendait dans sa voix l'écho de la voix de Blaine. La véritable tragédie d'Emmett Till, lui avait-il dit un jour, n'était pas qu'un enfant noir avait été assassiné pour avoir sifflé une adulte blanche. C'était que des Noirs s'étaient demandé « Mais pourquoi a-t-il sifflé ?»
Je lui ai parlé un moment. Il s'est contenté de hausser les épaules et a dit que c'était sans importance et qu'il voulait me parler de sa fille, pour laquelle il s'inquiète vraiment. Elle parle d'abandonner le lycée. Je vais l'aider, j'irai la voir lundi.
Blaine, c'est le 7e gosse dont tu vas t'occuper. Vas-tu aider tout le centre-ville de New Haven ?
Il y avait du vent et il plissait les yeux, tandis que les voitures passaient près d'eux sur Whitney Avenue. Il se tourna vers elle pour la regarder.
Si seulement, dit-il tranquillement.
J'aimerais juste te voir un peu plus, dit-elle en passant son bras autour de sa taille.
La réaction de l'université a été nulle. Une simple erreur sans aucune connotation raciale ? Sans blague. Je pense organiser une manifestation demain, faire sortir les gens pour dire que ce n'est pas normal. Pas chez nous.
Il était décidé, elle le savait. Il ne faisait pas qu'y penser. Il s'assit à une table près de la fenêtre pendant qu'elle allait passer leur commande au comptoir, choisissant sans hésitation ce qu'il aimait. Quand elle revint chargée d'un plateau de plastique, un sandwich à la dinde pour elle, un roulé végétarien pour lui et deux paquets de chips sans sel, il était penché sur son téléphone. Plus tard dans la soirée, il avait déjà passé des coups de fil, envoyé e-mail et texto, et la nouvelle s'était répandue. Son téléphone sonnait, vibrait, bipait des réponses de gens affirmant leur soutien. Un étudiant appela et lui demanda des suggestions pour les textes des pancartes. Un autre prenait contact avec les stations de télévision locales. Le lendemain matin, avant de partir à l'université, Blaine lui dit « J'ai cours sans interruption, donc on se retrouve à la bibliothèque. Envoie-moi un texto quand tu seras en route. »
Il n'en avait pas discuté. Il avait simplement présumé qu'elle serait là. Elle dit « D'accord. » Mais elle n'y alla pas. Ce ne fut pas un oubli.
Blaine lui aurait pardonné plus facilement si elle avait simplement oublié ou si elle avait été plongée si profondément dans la lecture ou la rédaction de son blog que la manifestation lui était sortie de l'esprit. Mais elle n'avait pas oublié. Elle préférait assister au déjeuner d'adieu de Kavanaugh plutôt que de rester devant la bibliothèque de l'université à brandir une pancarte. Elle espéra que Blaine ne lui en voudrait pas. Si elle éprouva de l'embarras, elle n'en fut pas consciente avant d'être assise dans une salle de classe avec Kavanaugh, Boubacar et d'autres professeurs à boire du jus d'érelle et écouter une jeune femme parler de sa prochaine session d'évaluation, quand les textos de Blaine envahirent son téléphone.
« Où es-tu ? »
« Ça va ? » ?»«
Beaucoup de monde, je t'ai cherché. » »« Figure-toi que Shan est venu. Tu vas bien ?»
Elle partit tôt et regagna l'appartement. Étendue sur le lit, elle envoya un texto à Blaine disant qu'elle était désolée mais qu'elle venait de se réveiller d'une sieste qui avait duré trop longtemps.
« Ok, je rentre. »
Il rentra et l'enveloppa de ses bras, avec une force et une fougue qui avaient franchi la porte avec lui.
« Tu m'as manqué. J'aurais vraiment voulu que tu sois là. J'étais si heureux de voir Shan, » dit-il.
Il était un peu exalté, comme s'il s'agissait d'un triomphe personnel.
« On aurait dit une mini-Amérique !» Avec des jeunes, noirs, blancs, asiatiques ou hispaniques. La fille de M. White était là. Elle photographiait son portrait sur les pancartes. Et il m'a semblé qu'il retrouvait enfin une vraie dignité.
C'est merveilleux, dit-elle.
Shan te salue, elle rentre ce soir par le train.
Blaine n'avait sans doute eu aucun mal à découvrir la vérité. Peut-être par quelqu'un qui avait assisté au déjeuner, mais elle ne sut jamais exactement comment. Il revint le lendemain et la regarda, un éclair de courroux dans les yeux.
« Tu as menti !»
Il prononça ces mots avec une sorte d'horreur qui la stupéfia, comme s'il n'avait jamais envisagé qu'elle puisse mentir. Elle aurait aimé lui répondre « Blaine, tout le monde ment !» Mais elle dit « Je suis désolée.
Pourquoi ?»
Il la dévisageait comme si elle l'avait atteint, dépouillée de son innocence. Et pendant un instant, elle le détesta, cet homme qui mangeait le trognon de sa pomme et en faisait un acte moral.
« Je ne sais pas pourquoi, Blaine. Je ne me sentais pas le courage. Je ne pensais pas que tu y attacherais tant d'importance. »«
Tu ne te sentais pas le courage ?»«
Je regrette. J'aurais dû te parler de ce déjeuner. Comment se fait-il qu'il soit brusquement devenu si important ? Tu connais à peine ce collègue de Boubacar ? »
dit-il, incrédule.
Tu sais, il ne s'agit pas seulement d'écrire un blog. Tu dois vivre en accord avec ce en quoi tu crois. Ce blog est un jeu que tu ne prends pas véritablement au sérieux. C'est comme si tu choisissais un cours facultatif intéressant juste pour faire monter ta moyenne.
Elle décela dans sa voix une accusation déguisée qui ne concernait pas uniquement sa paresse, son manque de zèle et de conviction, mais aussi son africanité. Elle n'était pas suffisamment acharnée parce qu'elle était africaine. Pas afro-américaine.
Tu es injuste,
répliqua-t-elle, mais il s'était détourné d'elle, glacial et silencieux.
Pourquoi ne veux-tu pas me parler ?
Demanda-t-elle.
Je ne comprends pas pourquoi tout ça a tant d'importance.
Comment peux-tu ne pas comprendre ? C'est une question de principe, dit-il. C'est à ce moment qu'il devint un étranger pour elle.
Je suis vraiment désolée,
dit-elle. Il était allé dans la salle de bain et avait fermé la porte. Elle se recroquevilla sous l'effet de cette rage muette. Comment un principe, une chose abstraite flottant dans l'air, pouvait-il se glisser si solidement entre eux, faire de Blaine quelqu'un d'autre? Elle aurait voulu qu'il s'agisse d'une émotion inavouable, d'une passion comme la jalousie ou la trahison. Elle appela Araminta.
J'ai l'impression d'être l'épouse désorientée qui demande à sa belle-sœur de lui expliquer qui est son mari,
dit-elle.
Au lycée, je me souviens qu'ils avaient organisé une collecte de fonds et installé une table avec des cookies et d'autres bricoles. On était censé mettre de l'argent dans un bocal et prendre un cookie. Soudain, dans un élan de rébellion, j'ai pris le cookie sans mettre d'argent dans le bocal. Blaine était furieux contre moi. Je me souviens d'avoir pensé « Allons, ce n'est qu'un cookie !» Mais je crois que pour lui, c'était une histoire de principe. Parfois, il peut être d'un orgueil ridicule. Donne-lui un ou deux jours, il n'y pensera plus.
Mais un jour passa, puis deux, et Blaine resta enfermé dans son silence glacé. Le troisième jour de son mutisme, elle prépara une petite valise et partit. Elle ne pouvait retourner à Baltimore. Son appartement était loué et ses meubles au garde-meubles. Elle alla donc à Willow.
Comment les universitaires voient le privilège des Blancs? Ou d'accord, ça craint d'être pauvre et blanc, mais essayer d'être pauvre et de couleur. Alors ce type dit au professeur Hunk, « L'idée que les Blancs sont privilégiés est stupide. Comment pourrais-je être privilégié? J'ai grandi dans une putain de pauvreté en Virginie-Occidentale. Je suis un plouc des Appalaches. Ma famille vit grâce aux allocs. » D'accord? Mais les privilèges sont toujours relatifs. Maintenant, prenez quelqu'un comme lui, tout aussi pauvre et dans la merde, et faites-en un noir. Si tous les deux, mettons, sont arrêtés pour détention de drogue, le blanc sera vraisemblablement envoyé en désintox et le noir en prison. Toutes choses égales, hormis la race. Vérifiez les statistiques. Le plouc des Appalaches est dans la merde, ce qui n'est pas marrant. Mais s'il était noir, il serait dans une merde supérieure. L'homme dit aussi au professeur Hunk, « Pourquoi faut-il que nous parlions toujours de race? Ne pouvons-nous pas être simplement des êtres humains ?» Et le professeur Hunk répond, C'est exactement le privilège des Blancs que vous puissiez faire ce genre de réflexion.
La race n'existe pas véritablement pour vous, parce qu'elle n'a jamais été une barrière. Les Noirs n'ont pas ce choix. Le Noir dans la rue à New York ne veut pas penser à la race, jusqu'à ce qu'il tente de héler un taxi. Et il ne veut pas penser à la race quand il conduit sa Mercedes en respectant la limite de vitesse, jusqu'à ce qu'un flic le force à s'arrêter. Donc, le plouc des Appalaches n'a pas de privilège de classe, mais une chose est sûre, il a le privilège de la race. Qu'en pensez-vous? Intervenez, amis lecteurs, et faites-nous partager vos expériences, spécialement si vous n'êtes pas blanc.
PS. Le professeur Hunk a suggéré que je poste ceci. Un test sur le privilège des Blancs. Copyright, une femme plutôt cool du nom de Peggy McIntosh. Si vous répondez non à la plupart des questions, félicitations. Vous bénéficiez du privilège des Blancs. Dans quel but, demanderez-vous? Sérieusement? Je n'en ai pas la moindre idée. Je pense que c'est juste bon de le savoir. Pour vous réjouir de temps à autre, reprendre du poil de la bête quand vous êtes déprimé, ce genre de choses. Voici donc. Si vous voulez faire partie d'un club prestigieux, vous demandez-vous si votre race rendra la chose difficile? Quand vous allez faire des achats seuls dans un magasin élégant, craignez-vous d'être suivi ou harcelé? Quand vous allumez une chaîne de télévision nationale ou ouvrez un quotidien généraliste, vous attendez-vous à voir surtout des gens d'une autre race? Vous inquiétez-vous que vos enfants n'aient pas de livres ou d'ouvrages scolaires qui représentent des gens de votre propre race? Quand vous sollicitez un prêt bancaire, craignez-vous qu'à cause de votre race, on puisse vous considérer comme financièrement peu fiable? Si vous êtes grossier, si vous êtes pauvrement vêtu, pensez-vous que les gens puissent dire que c'est à cause des mœurs dépravées, de la pauvreté ou de l'analphabétisme de votre race? Si vous réussissez dans un emploi, vous attendez-vous à ce que l'on dise que vous faites honneur à votre race? Ou que vous êtes différent de la plupart des gens de votre race? Si vous critiquez le gouvernement, craignez-vous d'être perçu comme un individu de culture étrangère? Ou qu'on vous demande de repartir à X, X étant un lieu situé hors des États-Unis? Si vous êtes mal reçu dans un magasin élégant et demandez à voir le responsable, vous attendez-vous à voir une personne d'une autre race? Si un agent de la circulation vous arrête, vous demandez-vous si c'est à cause de votre race? Si vous obtenez un emploi dans le cadre de la discrimination positive, craignez-vous que les employés de l'entreprise pensent que vous êtes sans qualification et avez été choisi uniquement à cause de votre race? Si vous voulez vous installer dans un beau quartier, vous inquiétez-vous de ne pas être bien accueilli à cause de votre race? Si vous avez besoin d'assistance médicale ou légale, craignez-vous que votre race soit un handicap? Quand vous mettez des sous-vêtements, couleur chair, ou utilisez des pansements, couleur chair, savez-vous à l'avance qu'ils ne seront pas assortis à la couleur de votre peau?